Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite tous les samedis après Vibrasos. C'est Beauty, l'émission d'actualité scientifique sur le 94.9 et graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur internet, je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce samedi avec cette nouvelle édition de l'émission Beauty, l'émission d'actualité scientifique sur graphite. Nous sommes le 29 avril et en 1914, il y a un brevet d'invention qui est accordé à Gideon Sudbach pour la fermeture à glissière ou la fermeture éclair. Ça date de 1914. Je sais pas, ça peut être intéressant de placer ça dans une conversation. Comme ça, on fait briller un petit peu notre intelligence personnelle, notre culture, culture scientifique notamment, en disant que c'était le 29 avril 1914 que la fermeture éclair a été créée. Voilà, donc il y a 109 ans. Précisément aujourd'hui. Naissance le 29 avril 1785 du baron Dreis von Sauerbord, on l'appelait Karl Dreis. C'est un inventeur qui est connu notamment pour avoir inventé en 1817 un engin à deux roues qui a été breveté en France sous le nom de vélocipède, mais aussi de draisienne. Bah oui, il s'appelait Dreis. Donc du coup, c'est la draisienne. C'est un peu l'ancêtre de la bicyclette en 1817, donc il y a un peu plus de 200 ans. Et enfin, décès le 29 avril 1793 de John Michell, qui était physicien, astronome, géologue britannique. Certains de ses travaux n'ont été redécouverts par les astronomes que 200 ans après, dans les années 1970. Il est considéré, John Michell, comme l'un des fondateurs de la sismologie moderne, car il fut le premier à suggérer que les mouvements du sol impliqués dans un séisme se propageait à l'intérieur de la Terre sous forme d'ondes à partir d'une rupture dans la croûte céleste, dans la croûte terrestre, pardon. Je raconte n'importe quoi. Et en fait, cette idée lui était venue après le tremblement de terre de Lisbonne qui avait eu lieu en 1755 et qui joue un rôle important dans le conte philosophique Candide de Voltaire, donc dans ces années 1755. Et donc John Michell, physicien, astronome et géologue, avait commencé à suggérer que ce sont les mouvements du sol qui sont impliqués justement dans les séismes. Il avait vu juste, et c'est que 200 ans après qu'on s'en est rendu compte. Voilà, l'actualité scientifique parle un petit peu de tout dans cette émission, on aborde tous les sujets. Et notamment, cet article que j'ai trouvé dans Futura Science, et je l'avais écouté sur une radio où il y a eu une chronique sur les plantes qui parlent, ou en tout cas qui crient, notamment quand elles sont stressées. Hein, les plantes, elles respirent, elles transpirent et elles parlent. C'est une recherche réalisée en Israël qui explique cela. Il y a certaines qui seraient même capables d'émettre des ultrasons en grande quantité lorsqu'elles manquent d'eau ou si elles subissent une agression extérieure. Par exemple, si on leur coupe la tige, elles crient. Les pauvres, tu m'étonnes, ça doit leur faire mal. Un constat que des chercheurs avaient déjà fait en 2019, dévoilant les résultats d'une expérience qui a été réalisée en Israël. 3 ans plus tard, les découvertes de ces chercheurs font donc l'objet, enfin, d'une publication officielle dans la revue Cell. Alors, d'après cette étude dirigée par Lilach Adani de l'Université de Tel Aviv, les plantes stressées peuvent produire une cinquantaine d'ultrasons en moins d'une heure, alors qu'elles produisent généralement moins d'un son par heure si elles sont en bonne santé. C'est une différence de taille, alors qui n'est pas perceptible par l'oreille humaine, mais que certaines espèces animales, comme par exemple les papillons de nuit ou certains rongeurs, peuvent entendre à une distance de 3 à 5 mètres, selon les estimations des chercheurs. Et pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont réalisé des enregistrements sonores de plants de tomates et de tabac cultivés en serre et qui étaient placés à l'intérieur d'une chambre acoustique. Alors si on se fie à leurs observations, l'augmentation des ultrasons surviendrait au bout de 2 jours de sécheresse, puis s'accentuerait jusqu'à atteindre son paroxysme au bout du 5e ou du 6e jour. L'étude explique notamment que lorsque les plantes sont exposées à un stress dû à la sécheresse ou alors si on leur coupe la tige, elles subissent un processus qui est appelé cavitation, au cours duquel il y a des bulles d'air qui se forment, qui se dilatent et qui s'effondrent dans le tissu végétal, ce qui, d'un point de vue sonore, se traduit par des vibrations. Et ces résultats peuvent modifier notre perception du règne végétal, qui était considéré jusqu'à présent comme presque silencieux, c'est ce que commentent donc les auteurs de ces travaux. Bien qu'il n'ait pas été en mesure de déterminer s'il s'agit réellement d'appel à l'aide de la part des plantes ou tout simplement c'est une réaction purement physiologique, eh bien les chercheurs pointent la nécessité d'approfondir leurs recherches dans le domaine de ce qu'on appelle la bioacoustique végétale, à une époque où de plus en plus de zones sont exposées à la sécheresse en raison du changement climatique. Les émissions sonores des plantes pourraient offrir un moyen de surveiller l'eau des cultures et éventuellement l'état des maladies, des questions qui sont d'une importance cruciale dans l'agriculture. Une irrigation plus précise peut permettre d'économiser jusqu'à 50% des dépenses en eau et d'augmenter le rendement avec des implications économiques spectaculaires, bien évidemment, c'est ce que soulignent les chercheurs. Mais en tout cas, voilà, les plantes crient quand elles sont stressées. On en découvre et on en apprend tous les jours. C'est ça, Biotine, c'est ça la science. Je trouve ça formidable. Et c'est aussi un peu de musique, Biotine. Love is strong when we're away. If I stay with you, don't make it last a day, or your lover run away. If I tell you live with me, holding on to you, don't want it now to break, give me just a longer day. Don't wanna scare you, but what you gonna say if I tell you live with me, holding on to you, don't want it now to break, give me just a longer. C'était Naive New Beatles avec Old In Love sur l'antenne de Graphite. J'étais en train de danser, c'était sympa ça. Ça m'a pris un peu de cours en fait la fin, j'aurais bien écouté un peu plus. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite avec un peu de science et un peu de musique. Alors après la musique, on retourne à la science. En janvier 2023, il y avait un article qui avait été publié, on l'avait évoqué, qui prévenait que l'année 2023 pourrait être bien plus chaude que 2022 à cause du retour d'El Niño. Caractérisé par une eau plus chaude que la normale dans une partie de l'océan Pacifique, eh bien ce phénomène risque d'amener des températures élevées tout au long de l'année. Et s'ajoute ensuite le réchauffement climatique qui conduit aussi à des vagues de chaleur de plus en plus extrêmes. Et donc les prévoir à l'avance permettrait à défaut de les empêcher, au moins de prévenir les conséquences, ça serait assez intéressant. Et donc dans ce but, il y a une étude publiée dans la revue Physical Review Fluids qui s'est penchée sur l'intelligence artificielle. Il y a une équipe du CNRS et de l'université Claude Bernard Lyon 1 qui a ainsi créé une méthodologie pour construire des modèles de prévision basée sur l'intelligence artificielle entraînée sur des modèles climatiques. C'est ce que décrit cette publication. Et donc, ce modèle quantifie les probabilités de fluctuations rares de la dynamique de la troposphère terrestre turbulente. Ça veut dire que, d'un point de vue dynamique des fluides, c'est de ces fluctuations que dépendent les canicules extrêmes. Ils se sont donc, ces chercheurs, appuyés sur les caractéristiques d'écoulement atmosphérique et les conditions d'humidité du sol pour associer une espèce de probabilité d'arrivée de vagues de chaleur extrêmes jusqu'à un mois à l'avance quand même. C'est ça qui est assez intéressant. Mais il reste un problème, c'est le manque de données pour nourrir l'algorithme qui puisse ensuite avoir au niveau de cette intelligence artificielle la possibilité de pouvoir apprendre régulièrement et de pouvoir avoir assez de données pour ensuite fonctionner de façon un petit peu optimale. Et pour y remédier, les chercheurs ont utilisé un modèle climatique qui permet de simuler 8000 ans d'évolution climatique. C'est assez intéressant. Les résultats restent moins concluants qu'avec de réelles données, bien évidemment. Mais en tout cas, l'utilisation de ces résultats climatiques sur 8000 ans, avec, avec justement l'idée de pouvoir essayer d'avoir des prédictions les plus fiables possibles, c'est pas encore totalement performant, nous dit-on, parce que on est encore sur une baisse significative de la capacité de prédiction. C'est un problème qui est rencontré souvent en sciences naturelles, mais dans le cas du climat, les conséquences sont plus gênantes, en particulier dans le cas d'événements extrêmes très rares. Ainsi, les chercheurs concluent sur la complémentarité avec les modèles météorologiques actuels. Mais en tout cas, voilà, on est sur des pistes assez intéressantes qui permettraient de prédire les canicules par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est en train de se mettre en place, et notamment par cette équipe pluridisciplinaire de chercheurs français avec le CNRS, l'Université Claude Bernard Lyon 1 et aussi le CEA, le Centre d'études de Centre d'énergie atomique. Pardon, je vais y arriver. Autre information qui est aussi une alerte, ce sont ces articles que l'on voit autour de certains shampoings secs qui sont bien pratiques, mais ça peut être aussi pas nécessairement sans danger pour la santé. Il y a l'administration américaine qui a publié un communiqué disant qu'il y avait du benzène qui avait été retrouvé dans des shampoings secs en quantité non négligeable. Alors le benzène, c'est un hydrocarbure aromatique monocyclique qui est très volatile. En fait, il provient du raffinage du pétrole et il entre dans la composition de substances chimiques telles que les encres, les peintures, les pesticides, les résines, les détergents. Et ce composé volatile représente un danger pour l'homme en cas d'inhalation, d'absorption digestive ou d'absorption cutanée. Et une fois dans notre organisme, eh bien le benzène est toxique pour la moelle osseuse. Il perturbe la production de globules rouges, des plaquettes, des globules blancs également. Et dans le cas les plus sévères, eh bien le benzène peut favoriser la survenue d'une leucémie. Il faut savoir que le benzène, c'est un cancérogène avéré pour l'homme, selon le Centre international de recherche sur le cancer. Et donc, être exposé au benzène une seule fois en quantité limitée, ça ne va pas provoquer forcément de cancer, parce que tout est une question de dose, bien évidemment, et les données disponibles reposent plutôt sur des expositions longues au benzène, notamment dans le milieu professionnel, notamment le milieu ouvrier, dans la fabrication de produits chimiques, par exemple. Alors, il y a beaucoup moins de données qui sont disponibles concernant des expositions plus faibles via des produits de consommation courants, dont notamment les shampoings secs. Néanmoins, par mesure de précaution, il vaut mieux éviter toute exposition. Et donc, en octobre dernier, l'administration américaine a détecté des niveaux trop élevés de benzène dans des shampoings secs. Il y a eu un rappel des produits de plusieurs marques qui a été effectué par mesure de précaution. Le rappel de ceux qui étaient stockés en magasin était assez facile à mettre en œuvre par les autorités. En revanche, le rappel des produits déjà vendus et présents chez les particuliers, c'est bien sûr plus difficile. Alors, pour savoir si vous avez un shampoing sec qui est concerné par le rappel chez vous, même si les produits concernés n'ont été distribués qu'aux États-Unis, eh bien, il faut vérifier le nom du produit et son numéro de lot. Et donc, pour cela, vous allez sur le site de la Food and Drug Administration, la FDA. Et ça vous permet justement de pouvoir identifier un petit peu les produits que vous avez chez vous. Alors, si le shampoing sec fait partie de la liste, bien sûr, il vaut mieux cesser de l'utiliser. Et l'administration FDA américaine se veut tout de même rassurante parce qu'aucun rapport d'événement indésirable n'a été signalé à ce jour concernant ces produits. Ouf, on respire, ok, d'accord, mais il n'empêche que, voilà, c'est là encore des sujets, enfin je trouve ça toujours assez intéressant qu'en 2023 on se pose encore la question d'utilisation du benzène dans les shampoings secs, enfin je sais pas, il y a des choses qui me dépassent. Allez, on continue à écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite. Thank you. Space Galvatures sur l'antenne de Graphite. C'était doux, c'était sympa. C'était sur l'antenne de Graphite, au cœur de l'émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique que vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande de FM ou sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, avec la possibilité, bien sûr, de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions. Ça a été lancé en 2019, un système de dépistage rapide de tumeurs cérébrales. Le dispositif s'appelle Deep Glioma, je vais y arriver, qui est basé sur l'intelligence artificielle. On en parle encore de cette intelligence artificielle. On a compris qu'on n'allait pas s'en sortir. Et donc, c'est un dispositif qui va s'associer à une méthode d'imagerie optique. L'idée, c'est d'analyser en moins de 90 secondes le tissu tumoral cérébral qui est prélevé au cours d'une opération. Et la technique développée par une équipe de neurochirurgiens et d'ingénieurs américains permet de détecter plus rapidement les mutations génétiques à l'origine du cancer. Il faut savoir que l'OMS utilise ces mutations pour définir des groupes moléculaires de la maladie, parce qu'il existe différents types de gliomes. Et les avantages et les risques de la chirurgie varient d'un type de tumeur cérébrale à l'autre en fonction de sa constitution génétique. Et par exemple, les patients atteints d'un type spécifique de gliome diffus, qu'on appelle l'astrocytome, peuvent espérer gagner en moyenne 5 ans avec l'ablation complète de la tumeur par rapport à d'autres types de gliomes diffus. Et donc les méthodes rapides de classification moléculaire sont très prometteuses pour repenser la conception des essais cliniques et apporter de nouvelles thérapies aux patients. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce que déclare notamment le docteur Daniel Oringer, professeur agrégé de neurochirurgie et de pathologie, et qui est donc l'auteur de cette nouvelle étude. Alors la recherche sur le nouveau système qui a atteint une précision moyenne de plus de 93%, ce qui est quand même assez fascinant. Eh bien, ça portait sur plus de 150 patients atteints de gliome diffus. Les résultats sont publiés dans la revue Nature Medicine. Mais donc, du coup, grâce à cette intelligence artificielle couplée à de l'imagerie optique, eh bien, on peut accélérer le diagnostic et le traitement de patients qui sont atteints de ce type de tumeur cérébrale. Grâce au dépistage moléculaire, c'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire que là, on est sur un cas d'utilisation de l'intelligence artificielle plutôt, j'allais dire, utile, en tout cas, qui prête moins à polémique, entre guillemets, que par rapport à d'autres utilisations de cette intelligence artificielle. Voilà, ça a été donc annoncé dans la revue Nature Medicine. Autre information, c'est cette étude de la NASA qui a été révélée il y a quelques semaines. Ça devait être début avril, il me semble. Il y a 66 millions d'années, il y a un astéroïde qui croisait la route de la Terre. La collision creusait un immense trou dans la croûte de notre planète, du côté de la péninsule du Yucatan, et elle mettait un terme, bien sûr, au règne des dinosaures il y a 66 millions d'années. L'histoire, elle est aujourd'hui connue de tous, mais celles qui le sont peut-être moins, ce sont celles de ces autres astéroïdes un peu plus petits qui ont frappé notre Terre depuis. Et selon les estimations, un astéroïde d'un kilomètre de diamètre tomberait sur notre planète en moyenne une fois tous les 600 000 ans. Les chercheurs ont étudié la question, mais des travaux d'un groupe de recherche de la NASA suggèrent aujourd'hui qu'ils se sont peut-être trompés, qu'ils ont peut-être mal interprété les traces, les cicatrices que les astéroïdes ont laissées au cours du dernier million d'années notamment. Et cette fois, les chercheurs ont travaillé sur des milliers d'images satellites à haute résolution et qu'ils ont associé pour construire des profils en trois dimensions, et c'est ainsi qu'ils ont identifié autour de 3-4 cratères d'impact au moins, des anneaux qui laissent penser que ces cratères ont pu être plus larges de plusieurs dizaines de kilomètres, et si tel est bien le cas, chacun aurait produit une explosion environ 10 fois plus violente que celle que produirait la plus puissante bombe atomique de l'histoire. C'est pas assez pour mener à une extinction de masse, mais tout de même, à de fortes perturbations du climat et des extinctions locales, là c'est totalement possible. Alors, précision quand même, que pour estimer le taux d'impact, les scientifiques ont pris l'habitude de compter et de dater les impacts sur la Lune, parce que sur Terre, l'eau et le vent ont tendance à les effacer assez rapidement, et ils s'intéressent aussi aux astéroïdes qui croisent dans les environs et les potentiels impacteurs. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés à ce chiffre d'un impact majeur tous les 600 000 ans. Mais la nouvelle étude donc de la NASA suggère qu'au cours du seul dernier million d'années, il y a 4 astéroïdes d'un kilomètre de diamètre qui ont frappé nos continents. Donc on n'est plus du tout dans la même, dans les mêmes chiffres. Sachant que les 3/4 de notre planète sont couverts d'océans, le nombre total d'impacts pourrait même s'élever à 12, nous dit la NASA. Reste tout de même à valider que les motifs circulaires révélés par un algorithme initialement développé pour étudier la topographie de Mars correspond bien au bord de ces cratères d'impact. Il y a certains observateurs qui estiment qu'il pourrait ainsi bien s'agir d'anneaux formés de débris éjectés par les impacts, mais de tels anneaux seraient-ils vraiment encore visibles après 1 million d'années d'érosion? Et pour en avoir le cœur net, eh bien, il faudra d'une part étudier les carottes de glace à la recherche un petit peu de traces de changement climatique que ces collisions auraient pu causer. Et d'autre part, il faudra se rendre sur place pour analyser les roches. Et si tout cela venait à valider l'hypothèse de cette dernière étude, eh bien cela pourrait être effrayant, c'est ce que commentent les chercheurs, parce que cela signifierait qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se joue dans notre ciel et surtout que la menace des astéroïdes est bien plus importante que ce qu'ils le pensaient d'abord. Et donc cette dernière étude de la NASA, conclut sur le fait que la menace des astéroïdes serait sous-estimée et que en fait la fréquence d'impact est beaucoup plus importante que ce qui avait été prévu ou estimé au départ. Voilà, je vous ai bien plombé l'ambiance, alors on va écouter un peu de musique pour essayer de nous remettre de nos émotions.
High in the peak, shadows fall, deeper the well, the echo calls, here in the unknown, out of the gap, wrapped in the fold, the devil's trap. Milder the winter, fairer the tide, finer the dust when sunlight climbs. There with the ether, there with the snow, the flake on the window with the amber glowing. White was the water, low was the tide, darker the fear, we rose to ride. You pulled me under, I held you there, together forever, everywhere. Heaven, hell, over the distant pealing bells, ringing in hope without regret, the living and dying of spring are said. Turn for tomorrow, leaf over years, page after page, bled out tears, faster disciple, dearest of none, bowing to no one, kingdom come. White was the water, low was the tide, darker the fear, we rose to ride. You pulled me under, I held you there, together forever, everywhere. White was the water, low was the tide, darker the fear we rose to ride. You held me under, I pulled you there, together forever, everywhere.
Together, forever, everywhere. C'était Pierce Facili sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Trois petites informations qui n'ont aucune, comment dire, aucun lien les unes avec les autres. Alors déjà, des lunettes de vue qui pourraient nous permettre de commander notre smartphone. Ce sont des chercheurs de l'université de Cornell aux États-Unis qui ont intégré un système de sonar sur des lunettes connectées et qui peuvent détecter les mouvements des lèvres. Elles sont baptisées Echo Speech. Elles sont extrêmement discrètes et elles utilisent même une monture de lunettes du commerce. Le système est composé de deux haut-parleurs miniatures sous un œil qui émettent des ultrasons en direction de la bouche. Deux microphones qui sont placés sous l'autre œil qui enregistrent les échos. La combinaison permet d'enregistrer quatre signaux différents qui sont ensuite analysés par un système d'apprentissage profond qui déduit les mouvements de la bouche. Selon les chercheurs, avec seulement deux sessions d'entraînement, les Echo Speech peuvent déjà reconnaître 31 commandes. Le choix d'un système sonore plutôt que des caméras offre plusieurs avantages. Les composants sont moins chers et plus petits. Ça rend donc les lunettes beaucoup plus discrètes et légères et donc plus confortables à porter. L'autonomie est également meilleure parce que les Echo Speech fonctionnent une dizaine d'heures entre deux recharges, là où une solution similaire avec des caméras serait limitée à seulement 30 minutes. De plus, les données audio sont beaucoup plus simples à traiter. Les lunettes envoient toutes les données par Bluetooth à un smartphone qui peut les traiter en temps réel. Et puis enfin, cette solution, elle est plus respectueuse de la vie privée qu'une caméra qui enregistre le visage. Les données sont traitées localement et les lunettes filtrent les fréquences plus basses, évitant ainsi d'enregistrer toute conversation aux alentours. Alors à terme, les Echo Speech pourraient permettre de dicter du texte dans des lieux où il n'est pas possible de parler, par exemple dans une bibliothèque ou dans un lieu bruyant comme un restaurant ou une salle de concert. De plus, excusez-moi, ça m'a pris d'un coup. De plus, elle pourrait être combinée avec un système de synthèse vocale pour donner une voix aux personnes muettes et leur permettre de communiquer sans langage des signes. C'est quand même totalement fascinant. Les chercheurs travaillent actuellement sur la reconnaissance des expressions faciales ainsi que les mouvements des yeux et du haut du corps. Un tel système pourrait notamment être intégré sur les casques de réalité virtuelle pour animer son avatar. Mais voilà, donc des lunettes connectées qui lisent sur les lèvres. C'est assez fascinant. Deuxième information concernant le Bitcoin. Jusqu'en 2019, les centrales de production du Bitcoin étaient quasiment toutes situées en Chine, jusqu'à ce que le pays décide de bannir cette crypto-monnaie. Et les usines ont alors déménagé dans d'autres pays, comme l'Iran, le Kazakhstan et aussi les États-Unis. Mais comme le révèle le rapport du New York Times, la consommation électrique des installations produisant le Bitcoin est immense. Celles-ci mettent en tension le réseau électrique des États américains qui hébergent ces centrales, comme par exemple le Texas. En février 2021, le Texas était confronté à l'une de ses pires vagues de froid avec un blackout électrique qui a coûté la vie à 40 Texans qui sont morts de froid chez eux. Et pendant ce temps, la centrale de Bitcoin qui était située à côté d'Austin consommait... consommer en électricité. Pendant ce temps, donc, la centrale de Bitcoin, qui est donc située à côté de la ville d'Austin, consommait en électricité l'équivalent de 6500 foyers américains. Et donc la demande électrique des 34 usines à Bitcoin des États-Unis représente de nos jours l'équivalent de la consommation de 3 millions d'Américains. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, en plus de générer très peu d'emplois, la production de Bitcoin rejette une quantité phénoménale de polluants parce que sa production nécessite l'usage des énergies fossiles. Et selon les calculs du New York Times, l'ensemble des usines à Bitcoin des États-Unis rejette plus de 16 millions de tonnes de carbone, de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Et ce n'est pas tout, il y a plusieurs centrales qui sont si étendues qu'elles génèrent une grande chaleur autour d'elles. Au Dakota du Nord, la centrale de Jamestown a réussi à faire fondre toute la neige autour de ses 8 bâtiments, c'est quand même assez fascinant. Le bruit des ventilateurs servant à refroidir les 30 000 ordinateurs est tellement fort qu'il pourrait être entendu à 800 mètres de large. Les ventilateurs sont tellement énormes que du coup, ça s'entend à presque un kilomètre. Et donc, si la monnaie est virtuelle, son impact sur l'environnement est quant à lui bien réel. C'est la première fois, en fait, je crois, que l'on parle de ces, de l'impact environnemental du Bitcoin aux États-Unis. Et ce sont des chiffres qui sont totalement, assez extraordinaires, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à un impact aussi négatif pour ce Bitcoin. Enfin, dernière information, cette courte phrase pleine d'émotion et de sanglots, « Maman, maman, j'ai foiré », eh bien c'est le début de la conversation téléphonique qu'a eu Jennifer DeStefano, la mère d'une jeune fille âgée de 15 ans, avant qu'un homme prenne le téléphone et lui demande une rançon $1 million pour la libérer. Et donc, sans ce règlement, l'individu menaçait de droguer sa fille et de la déposer au Mexique. Cette histoire, elle a été relatée par la chaîne de télévision AZ Family. Cette histoire a eu lieu en Arizona, aux États-Unis. La personne demandant la rançon a très rapidement réduit sa demande à $50 000 lorsque la mère de l'adolescente a expliqué qu'elle n'avait pas trop d'argent, en fait. Un comportement étrange qui a peut-être mis la puce à l'oreille de cette mère inquiète. Bien entourée durant ce coup de fil, elle a pu contacter son mari qui a expliqué que leur fille se trouvait en sécurité à la maison. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est une mauvaise aventure qui est en réalité une tentative d'escroquerie. Mais reste que la voix a été vraiment celle de l'adolescente. C'est ça qui est fascinant. Et en réalité, il s'agit d'un nouveau type d'arnaque avec l'utilisation d'un clone de la voix d'un proche créé par une intelligence artificielle. On y revient encore dans cette émission. Alors, s'il est donc difficile de faire confiance à ce que l'on peut voir, parce que les photos réalisées qui sont créées par notamment cette application Midjourney, ça circule de façon virale. On a tous vu le pape François avec cette magnifique doudoune blanche. Maintenant, il va en être de même. On va pas pouvoir faire confiance à ce que l'on entend, parce qu'il fallait énormément d'échantillons de la voix d'une personne pour pouvoir la cloner. Mais les intelligences artificielles s'améliorent. Seulement 3 secondes de votre voix sont nécessaires pour y parvenir, et ces seules 3 secondes suffisent pour relever l'inflexion de la voix et la transmission d'émotions. Mais alors, comment trouver la voix d'un proche pour la reproduire ? Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux, tout simplement, où un nombre de personnes diffusent des vidéos personnelles dans lesquelles elles s'expriment, bien évidemment. Rien qu'une approche via ces mêmes réseaux peut suffire pour engager un dialogue oral et collecter une voix rapidement. Le reste des informations privées se trouve également sur les réseaux sociaux, parce que tout se sait, bien sûr. Cela permet d'obtenir des détails qui vont permettre de rendre plus authentique la supercherie. Alors, encore une fois, on est toujours dans ce même sujet. Les intelligences artificielles, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Tout dépend, en fait, de l'utilisation qu'on en fait. Et là, bien sûr, on est dans un cas d'escroquerie, et c'est assez troublant, bien sûr, et assez terrifiant, parce que finalement, si on peut cloner la voix d'une gamine qui appelle sa mère pour dire « attention, attention, j'ai peur », et que du coup, on peut rentrer dans des dispositifs assez troublants d'escroquerie, bref. C'est encore un cas qui, là encore, remet toujours sur le même sujet qu'on évoque souvent dans cette émission. Au niveau technologique, c'est fascinant. Au niveau de l'utilisation, on ne se pose pas toujours encore les bonnes questions, malheureusement. Allez, on continue à écouter un petit peu de musique. J'espère que c'est de la musique, de la vraie musique, qui n'a pas été créée par intelligence artificielle. Thank you. notwithstanding, c'était Get the Blessing sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Et vous avez bien raison, ça vous permet de vous tenir informé de l'actualité scientifique, bien évidemment. Il y a deux informations qui concernent les moustiques. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de pouvoir associer ces deux articles. Alors le premier concerne donc les moustiques qui piquent désormais toute l'année ou presque, que ce soit en Europe comme aux États-Unis. L'augmentation des températures a bien un effet majeur sur le cycle de vie des moustiques. Mais le changement climatique n'est pas le seul responsable. C'est ce que démontre une nouvelle étude de l'Université d'Ohio aux États-Unis. La saison d'activité des moustiques s'allonge à cause de la pollution lumineuse. Les chercheurs ont réussi à prouver que la pollution lumineuse des villes impacte la période de repos des moustiques, la diapause en fait, c'est une sorte d'hibernation. En laboratoire, ils ont pu constater deux conséquences. D'un côté, certains moustiques s'épuisent et ne survivent pas à l'hiver, mais d'un autre côté, cela signifie que les moustiques restent actifs au cours de l'automne et de l'hiver et ils ont donc beaucoup plus de temps pour piquer. Et pour obtenir de telles conclusions, les chercheurs ont comparé les différences entre des moustiques exposés à la lumière artificielle et d'autres qui ne l'étaient pas. Et tout ça, c'était en laboratoire. La lumière artificielle, ça perturbe un petit peu le rythme circadien des moustiques, c'est-à-dire les processus biologiques d'un corps qui se produit par cycle sur une durée d'environ 24 heures. Et le bouleversement de ce rythme les empêche de fixer certains nutriments et ça les épuise. Et cette double conséquence a des effets négatifs sur la biodiversité et les humains, parce que les moustiques piquent de l'été jusqu'à l'hiver, mais un grand nombre d'entre eux périssent pendant l'hiver. Et cet effondrement des populations de moustiques à la fin de l'hiver crée alors un manque de nourriture pour les animaux qui s'en nourrissent au printemps. L'étude qui est publiée dans le journal Insects s'est surtout intéressée à un type particulier de moustique. C'est en fait le moustique commun, celui qui est responsable de la transmission du virus West Nile aux États-Unis. Au cours de l'hiver, ce moustique entre en phase de repos, généralement dans des caves, dans des hangars. Et lorsqu'ils sont confrontés à la lumière des villes, les moustiques, ils vont en fait sauter un petit peu cette période de repos et ils entrent à nouveau en phase de reproduction. Les femelles, elles ont alors besoin de sang pour le développement de leurs œufs. Et c'est donc à ce moment qu'elle pique, bien évidemment. Avec les résultats de cette étude, la pollution lumineuse devient alors un problème de santé publique selon l'Université d'Ohio. Plus les moustiques sont actifs, plus ils piquent et plus le risque de transmission de virus est important. Après avoir fait des tests en laboratoire, l'équipe de chercheurs compte maintenant confirmer ses résultats à l'extérieur. La prochaine étape sera donc d'aller étudier l'effet de la pollution lumineuse dans l'environnement naturel des moustiques, bien sûr. Ça, c'était le premier article. Le deuxième article, qui concerne les moustiques toujours, c'est justement des scientifiques qui ont peut-être trouvé la solution pour se débarrasser des moustiques vecteurs de maladies. Il y a certains moustiques qui sont des insectes nuisibles car ils peuvent transmettre, on le sait, aux humains des maladies graves, notamment l'encéphalite cérébrale transmise par un certain type de moustique qui est le Culex pipiens. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de scientifiques qui ont cherché à développer des méthodes pour réduire leur population ou pour empêcher leur reproduction. Pour se reproduire, le moustique mâle doit s'accoupler avec le moustique femelle et lui transmettre son sperme riche en spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes se déplacent ensuite dans l'appareil reproducteur féminin grâce à leur flagelle pour achever la fécondation en pénétrant un ovule. On a l'impression que c'est un petit peu comme chez nous les humains. Et s'il était en fait possible de rendre ces fameuses flagelles inactifs pour qu'ils ne puissent pas féconder l'ovule, c'est exactement ce qu'une équipe de chercheurs a essayé de faire et leurs travaux ont été publiés dans la revue PLOS ONE. Les auteurs ont constaté que pour être efficaces, les flagelles des spermatozoïdes doivent être activées par des protéines qui sont sécrétées dans le sperme lors de l'éjaculation. Et donc si les spermatozoïdes en sont privés, ils restent immobiles et ils finissent par se dégrader. L'ensemble des protéines des spermatozoïdes matures de ce moustique particulier, le Culex pipiens, a été étudié afin d'identifier quelle protéine est la plus impliquée dans la mobilité des spermatozoïdes. Et ils l'ont trouvé et ils ont pu la désactiver et les auteurs ont constaté que justement, eh bien, ça marche, les spermatozoïdes n'étaient plus en capacité de se déplacer. Cette découverte, elle pourrait aboutir à la stérilisation des mâles pour empêcher la propagation des moustiques nuisibles. Cette méthode permettrait de supprimer ces moustiques de manière plus sélective qu'un pesticide et donc de façon plus respectueuse de l'environnement. Cependant, ces méthodes doivent être utilisées avec précaution pour éviter les effets imprévus sur les écosystèmes naturels. Les moustiques stériles pourraient interagir avec d'autres espèces de moustiques. De plus, les moustiques jouent un rôle dans la chaîne alimentaire, notamment pour les poissons. Les auteurs ont rappelé l'importance de lutter contre les moustiques en réduisant leur habitat naturel, notamment en éliminant les zones où ils peuvent se reproduire, comme les eaux stagnantes, notamment. Il y a de grandes campagnes de sensibilisation qui ont été lancées pour informer les citoyens des dangers des moustiques et des mesures à prendre pour éviter leur prolifération. Et de manière plus générale, ces travaux sur une meilleure connaissance de la mobilité des spermatozoïdes, ça pourrait aussi permettre de mieux comprendre la fertilité humaine, soit pour concevoir un contraceptif masculin, soit pour lutter contre l'infertilité. Donc voilà, le fait d'avoir travaillé sur les moustiques permet également aussi d'en savoir plus sur l'homme. C'est ça qui est intéressant. Allez, on écoute un dernier titre sur l'antenne de Graphite, et c'est Nothing que nous allons écouter.
I'm not afraid to die.
The Dead Are Dumb, c'était Nothing sur l'antenne de Graphite. Pour terminer cette émission, quelques petites brèves de Science à venir du mois d'avril. Des chercheurs ont observé que les baleines à bosse changeaient de stratégie de séduction. En fait, pour séduire leur partenaire, les baleines à bosse mâles passent petit à petit du champ à l'affrontement physique. C'est le constat fait dans la revue Communications Biology par deux chercheuses australiennes, Rebecca Dunlop et Céline Free. Et pour mener leur étude, elles ont utilisé un ensemble de données récoltées de 1997 à 2015 sur une population de baleines à bosse au large de la plage Perhentian du Queensland, c'est en Australie. Et en fait, ces baleines avaient été décimées par des pratiques de chasse avant les années 1960, ne laissant qu'environ 200 individus à la fin des années 70. Et pour réussir à se retrouver dans l'océan et régénérer leur population, les baleines ont davantage utilisé leur technique de chant. Et celle-ci s'est révélée particulièrement efficace, puisque sur la période étudiée, le nombre d'individus est donc passé de 3700 jusqu'à 27 000 en 2015. Et les chercheuses ont observé qu'à mesure que la population se rétablissait, les mâles adaptaient leur comportement reproductif. Les résultats de leur étude suggèrent qu'ils choisissent de chanter lorsque la densité locale de mâles est faible et préfèrent un comportement non chantant lorsque cette même densité augmente, ou alors qu'il y a un autre mâle qui commence à chanter, pour ne pas attirer la concurrence et risquer de perdre leur partenaire. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. L'individu peut choisir de partir à la recherche d'une autre femelle, de rester passif dans le cercle de mâles, ou alors d'entrer en confrontation physique par des bousculades, voire des combats. On peut voir des coups de tête en surface où une baleine essaye d'en frapper une autre, d'autres se pourchassant. Et fort heureusement, cette adaptation des mâles ne signifie pas pour autant la disparition du chant des baleines, qui ont d'autres occasions bien sûr de donner la voix. Mais voilà, elles se disent, s'il y a un petit peu trop de concurrence, on va t'en secouer deux, trois comme ça et ça va être un petit peu plus efficace. Mais voilà, mais bon, qu'est-ce que c'est, un comportement tout simplement humain. En fait, nous sommes des baleines. Voilà, c'est la conclusion, c'est ça. Allez, on terminera cette émission avec cette information sur les baleines. On se retrouve samedi prochain. Alors, il y a la rediffusion mardi à 10h de Biotine sur l'antenne de Graphite. Sinon, on se retrouve samedi prochain à midi pour une nouvelle diffusion de l'émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez, je le rappelle, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et graphite.net, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, avec la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve samedi prochain, bientôt, merci, au revoir.